le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je vous retrouve avec plaisir en ce dimanche matin. Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Aujourd'hui, nous accueillons James Woody de l'Église protestante unie de France. Il est pasteur à Montpellier et dirige la publication Évangile et Liberté. Comme Dieu envoie les fils d'Israël explorer la terre promise, il nous envoie explorer la vie. Nous ne pouvons pas nous contenter de suivre la Bible à la lettre. Nous devons nous-mêmes expérimenter la vie. C'est sur ce chemin de réflexion que nous marchons aux côtés du pasteur James Woody.
C'est avec la symphonie du Nouveau Monde que je vous accueille dans ce service protestant. Je vous propose de partir en compagnie de personnages de la Bible pour un voyage vers un nouveau monde, vers une nouvelle terre, la terre promise autrefois par Dieu à Abraham et à ses descendants. Le récit de ce voyage se trouve dans le quatrième livre de la Bible, le livre des Nombres. C'est là que nous allons découvrir une nouvelle manière de voir le monde dans le livre des Nombres.
Sur l'ordre de Dieu, Moïse envoya un homme de chacune des tribus d'Israël pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est vivable ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. » Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins.
Quand on y pense, cette idée d'envoyer des personnes pour explorer la terre promise par Dieu est assez étrange. Si c'est la terre que Dieu a choisie pour y installer son peuple, à quoi bon l'explorer avant ? Avec toutes ces observations pour savoir si le pays est vivable ou non, on peut sérieusement se demander si ce n'est pas une invitation à ne pas croire Dieu sur parole. En effet, s'il faut vérifier sur place que l'endroit est vivable, cela veut dire que la parole de Dieu a besoin d'être vérifiée. Le fait que la Bible ait conservé cet épisode où Dieu demande à Moïse d'envoyer des explorateurs pour examiner la terre promise par Dieu nous indique que, pour les rédacteurs de la Bible, obéir à la parole de Dieu ne peut pas se faire aveuglément. Certains pourraient imaginer que les croyants sont de bons petits soldats qui obéissent mécaniquement aux ordres d'un Dieu qui dirige entièrement leur vie. Cet épisode biblique nous fait comprendre qu'il n'en est rien. Et si nous considérons que la Bible n'est pas au sens strict du terme « parole de Dieu », alors nous pouvons en tirer comme conséquence qu'un croyant n'est pas quelqu'un qui a le nez vissé dans les textes bibliques et qui appliquerait à la lettre tout ce qui est écrit dans la Bible. Dieu ne livre pas une terre promise clé en main. Le croyant est donc appelé par Dieu à explorer le monde, à se rendre là où bat le cœur du monde, là où la vie s'agite, pour voir de quelle manière la promesse peut s'accomplir. Nous pourrions dire que l'Éternel n'est pas le Dieu des mots, mais le Dieu des vivants. C'est pourquoi, selon la formule du théologien François Faure, il ne faut jamais se laisser enfermer dans une parole. Pour sa part, l'évangile de Jean dira que Dieu ne s'est pas fait livre, il s'est fait chair. La parole de Dieu, les paroles qui nous rendent plus humains, s'incarnent dans des hommes et des femmes qui acceptent de partir à l'aventure, qui acceptent d'aller à la rencontre d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas encore, qui acceptent de découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles façons de vivre. Dieu ne s'incarne pas dans un livre, dans une loi, dans un cadastre. Et le christianisme n'est pas une religion du livre. Le christianisme est une religion de l'interprétation du livre. Ce passage biblique nous fait comprendre que si le commandement de Dieu ne suffit pas, la Bible ne suffit pas non plus. Il faut aussi que nous nous impliquions personnellement pour dire ce qui est vivable et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas une vérité toute faite quelque part qu'il suffirait d'appliquer sans y penser. Cela est vrai, par exemple, dans toutes les réflexions qui concernent la façon de se comporter dans les différents moments de la vie, ce qu'on appelle l'éthique. Cet épisode des explorateurs nous retient de faire de la Bible un grand livre de morale qui nous dirait ce qu'il faut faire en toutes circonstances. La Bible ne dit pas ce que doit faire une femme enceinte qui ne veut pas mener sa grossesse à son terme. La Bible ne dit pas ce que doit faire un chef d'entreprise dont le chiffre d'affaires ne permet plus de maintenir le nombre de salariés. La Bible ne dit pas non plus quelle attitude adopter avec les personnes qui veulent se réfugier chez nous plutôt que rester dans leur pays qui cultive l'intolérance, etc. Le commandement de Dieu ne suffit pas. La Bible ne suffit pas non plus. Faire de la théologie, c'est se mettre à l'écoute des réflexions qui nous ont été transmises par ceux qui ont fait l'expérience du sacré. Et c'est aller à la rencontre du monde, à la rencontre du réel, pour savoir quelle direction prendre dans la vie, pour savoir quel sens donner à notre vie.
Vous êtes sur France Culture à l'écoute du service protestant. Le pasteur James Woody nous parle de notre manière d'explorer la vie à travers l'expérience des Hébreux.
Nous poursuivons la lecture du livre des Nombres. Les Hébreux se mettent en route.
Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Shéchaï, Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. » Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !» Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. »
De retour auprès du peuple, les 12 explorateurs rendent compte de ce qu'ils ont observé pendant 40 jours. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont effrayés par ce qu'ils ont vu. Un pays qui dévore ses habitants. Le sentiment de n'être que des sauterelles aux yeux des habitants. N'est-ce pas ce que nous ressentons nous aussi lorsque nous sortons de notre bulle et que nous allons à la découverte du monde qui nous entoure ? Pour beaucoup, il n'est même pas besoin de sortir de chez soi pour éprouver un tel effroi. La vie est dure, la vie est cruelle, là où nous vivons. Il arrive que nous ayons l'impression d'être véritablement broyés par la vie. Il arrive que nous ayons le sentiment d'être comme invisibles pour ceux qui sont autour de nous. Il n'est pas besoin d'aller très loin pour voir des personnes qui ne s'en sortent pas, qui ont l'impression que vivre est au-dessus de leurs forces. Prenons ne serait-ce que la question du logement. Quelle difficulté pour trouver un logement parce qu'on n'a pas de contrat de travail à durée indéterminée, parce qu'on n'a pas un garant, parce qu'on ne peut pas mettre de côté 3 mois de salaire pour la caution. Tout cela revient à constater que la société peut avoir une administration qui est telle un monstre qui dévore les plus faibles. Nous pouvons aussi penser aux difficultés des entrepreneurs qui doivent faire face à toutes les réglementations qui conduisent au même sentiment de se faire dévorer par l'administration. Quant aux invisibles de la société, ceux qui vivent dans la rue, dans leur voiture, ceux qui n'ont pas de quoi avoir des sous-vêtements en bon état, ceux qui rasent les murs parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour en règle et qui se font exploiter. En ce qui les concerne, l'image biblique des sauterelles est bien plus belle que la réalité. Alors, il est facile de comprendre le peuple hébreu qui se met à se lamenter. C'est ce que nous raconte la suite de cette histoire biblique.
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?»
Il n'y a pas beaucoup à voyager pour rencontrer des personnes qui ne pensent pas valoir beaucoup plus qu'une sauterelle aux yeux de ceux qui ne manquent de rien. Et il n'en faut pas beaucoup pour que celui qui ne manque de rien se fasse à son tour dévoré par le système et qu'il se sente soudainement bien insignifiant. Tout cela peut conduire à une forme de résignation. Il y a là une peur de l'avenir qui peut briser bien des élans de vie. Certains se retrouvent paralysés face à ce qu'il faut affronter dans la vie. Le moindre geste du quotidien devient épouvantablement difficile à accomplir. Et quand la vie se résume à une somme de problèmes, il n'est pas étonnant que la question se pose de l'intérêt de continuer à vivre. À quoi bon encore vivre quand tout devient une source d'inquiétude? Lorsqu'on se sent menacé en permanence? Lorsqu'on a le sentiment d'être une proie chassée par tout le monde? La mort semble alors bien plus douce que la vie, et bien plus enviable finalement. Au moins, une fois mort, on peut se dire qu'il n'y aura plus rien à craindre.
Vous écoutez le service protestant sur France Culture. Nous sommes avec le pasteur James Woody. Il évoque l'exploration de la terre promise par les Hébreux pour interroger notre rapport à la vie.
Dans une situation semblable à celle que connaissent les Hébreux, il y a 2 attitudes possibles. La première est de se laisser mener par son sentiment. C'est ce que proposent les Hébreux qui disent
« Nommons un chef et retournons en Égypte ».
Il y a un jeu de mots qui nous rappelle que, bien souvent, le sentiment. Les émotions, notamment la peur, ne sont pas toujours bonnes conseillères car elles concentrent toute notre attention sur les aspects négatifs, sur ce qui ne va pas. Une émotion peut saturer notre esprit et elle peut nous empêcher d'avoir une vision équilibrée des choses. Ce que nous ressentons peut nous tromper. L'émotion peut être tellement forte qu'elle nous empêche de voir les promesses d'une situation. Dans ce cas, l'émotion nous condamne à subir la vie au lieu d'en profiter. Elle nous condamne à abandonner notre liberté personnelle, à nous mettre sous la coupe d'un chef qui prendra le contrôle de notre vie et qui nous ramènera en Égypte, ce pays qui symbolise l'esclavage dans la Bible. Cela dit bien qu'il peut nous arriver d'être l'esclave de nos émotions, en particulier l'esclave de nos peurs, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur de la situation, peur de perdre la face, peur de l'échec, peur de la honte devant les autres. Tout cela nous conduit à renoncer à être nous-mêmes. Cela nous conduit à renoncer à nos projets, à nos ambitions. Cela nous conduit à renoncer à notre propre vocation. Cela nous tue à petit feu. La deuxième attitude possible, nous l'entendons maintenant.
Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très vivable. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils seront notre pain. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël.
Caleb et Josué refusent la tyrannie des sentiments. Ils analysent la situation pour apprécier aussi ses potentialités. Et ils ne le font pas avec leur grille de lecture personnelle. Ils utilisent des critères issus de la riche expérience de ceux qui les ont précédés. Quand Caleb et Josué disent de ce pays qu'il est très très vivable, il y a une allusion au premier récit de la Bible, qui est le récit de la création. À chaque étape de la création, Dieu observe et il constate que c'est vivable, ce qui se dit Tov en hébreu. Quand il crée l'être humain, Dieu dit que c'est très vivable, Tov Meod. Après l'exploration de tous les recoins de la terre promise, Caleb et Josué disent que ce lieu est Tov Meod Meod, très très vivable. Quels sont nos critères pour déterminer ce qu'est une vie bonne? Est-ce l'absence de difficultés? Est-ce l'absence de défis à relever? Dans ce cas, il se pourrait que nous soyons tels les Hébreux qui préfèrent redevenir esclaves pour n'avoir aucun problème à régler et qui préfèrent vivre tranquillement une vie de soumission. Mais nous pouvons aussi, tels Caleb et Josué, reprendre le critère de Genèse 1 et nous demander si la situation est vivable. Le critère alors n'est pas « est-ce que cela rend ma vie plus facile ?» mais « est-ce que cela rend ma vie plus vivable ?» au sens de « plus libre », au sens de « plus intéressante », plus dynamique, plus joyeuse. Est-ce que ma vie est orientée vers quelque chose qui me donne envie de me lever le matin? Est-ce que je suis attiré par quelque chose qui est vraiment essentiel? Quelque chose que je ne regretterai pas plus tard? Quand Caleb et Josué utilisent la formule « l'Éternel est avec nous », c'est une manière de dire que ce qui les anime a un caractère sacré, que cela a valeur d'absolu. Ils ne sont pas animés par une fièvre momentanée, ils ne sont pas attirés par un effet de mode. Dire que l'Éternel est avec eux, c'est une manière de dire qu'ils adhèrent à ce qui a un caractère inconditionné, ce qui n'est pas motivé par des circonstances particulières. Nous pourrions le dire de manière non religieuse. Cela reviendrait à dire que ma vie est tendue vers ce qui a un caractère ultime. Dans ce cas, nous ne faisons plus nos choix en fonction de nos peurs. Nous ne vivons plus en essayant d'éviter les problèmes. Nous ne vivons plus en fuyant nos responsabilités. Nous vivons en fonction de nos adhésions, en fonction de ce que nous jugeons juste. Et notre quotidien consiste à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour accomplir cela. Peu importe que nous ne réussissions pas tout ce que nous entreprenons, peu importe qu'il y ait des ratés, ce qui compte, c'est que notre vie aille dans le sens de ce qui rend notre quotidien plus vivable. Ce qui compte, c'est que notre vie s'oriente vers ce qui nous permet d'atteindre des degrés supérieurs de réalisation. Cela revient à dire que la terre promise par Dieu est constituée de tout ce qui permet à notre vie d'être porté à son incandescence. Avant de nous séparer, je vous propose de vous associer à la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Ce sont des paroles qui nous disent des possibles, qui ouvrent notre vie sur plus grand que nous-mêmes. Ce sont des paroles qui nous disent quels sont les défis à relever dès à présent pour rendre notre vie infiniment plus vivable. Ce sont des paroles qui disent « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous salue avec une parole de bénédiction, c'est-à-dire une parole qui dit bien ce que nous sommes appelés à vivre. Le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Amen.
Le service protestant de ce matin sur France Culture s'achève. De la théologie en voyageant, c'était le thème de la méditation d'aujourd'hui. Merci au pasteur James Woody de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. À la réalisation, Milena Hellig. À la prise de son, Benjamin Vignal. Lecture, Marie-Jo Alvarez. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France. Présenté par Olivier Betty. Si vous souhaitez réécouter et télécharger cette méditation, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Restez sur France Culture, je vous retrouve pour Culture Protestante, le rendez-vous mensuel des amitiés huguenotes internationales. Nous partons à la découverte du programme estival du Musée du Désert à Mialet, dans les Cévennes. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.